Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On passe la matinée ensemble. Faites attention si vous êtes obligé de sortir sur les routes. Vous avez entendu dans nos nouvelles, c'est excessivement glissant. Effectivement, beaucoup de gens n'ont pas encore eu leur rendez-vous pour installer leur pluie d'hiver. Alors, faites attention si c'est votre cas. Si vous n'êtes pas obligé de sortir aujourd'hui puis d'aller jouer dans le trafic, là, d'aller jouer dans la circulation, abstenez-vous. Grande nouvelle qui nous est arrivée hier parce que vous l'avez vu, hein, le premier ministre François Legault, le directeur québécois de la santé publique, serre la vis et mon collègue Paul Arcand a un peu mis la table à la discussion que je veux qu'on ait ensemble, nous, pour la prochaine heure. Je veux vous demander si ça change quelque chose, finalement, dans vos plans pour ces quatre jours qu'on nous donne du 24 au 27 décembre pour faire quelques rencontres familiales privées. On le sait là, qu'il n'y aura pas de Noël normal, c'est partout dans le monde. Là. Et c'est clair que quand on voit les taux qui continuent d'être élevés de contamination à COVID, on comprend pourquoi. Je dis on comprend pourquoi, je dirais que la plupart des gens comprennent pourquoi et sont prêts à faire des efforts. Mais il y en a qui ont quand même reçu cette nouvelle là, de façon un peu étonnée parce que c'est vrai qu'on commençait à avoir à faire nos invitations, à se préparer pour ces quatre jours-là, du 24 au 27. Ça fait à peine une semaine qu'on nous avait annoncé qu'on pouvait voir nos amis, nos proches. Et là, volte-face. On écoute le premier ministre Legault, d'ailleurs, là-dessus.
D'abord, je reviens sur les quatre jours. La santé publique nous a dit il y a quatre jours de disponibles, mais on veut qu'il y ait seulement deux jours d'utiliser. Donc, deux soirées sur les quatre.
Deux soirées sur les quatre. Visiblement, ce qu'on nous a dit hier, c'est qu'on pensait peut-être avoir été assez clair. On a sans doute été très étonnés de la réaction des Québécois et des Québécoises. C'est-à-dire que quand on nous a dit entre le 24 et le 27, vous me direz ce que vous en pensez, mais on s'en est assez parlé depuis à peine une semaine. Ce que vous m'avez dit, c'est qu'on a compris du 24 au 27, on a le droit de faire des rencontres à la maison. Et là, les invitations ont commencé à pleuvoir un peu partout. Puis on s'est rendu compte que les gens avaient compris, ben autant de parties par jour que tu veux pendant ces quatre jours-là. Or, c'est pas ça le concept. Et là, on nous dit même, et le docteur Arruda l'a même dit, lui, idéalement, ça serait un seul rassemblement pendant ces quatre jours-là.
C'est pas une période pour fêter. Oui, c'est une période pour se retrouver en famille, mais c'est pas le Copacabana et le Festival de Rio qu'on vous demande de faire de grâce, parce que chaque contact supplémentaire est un risque.
Ah, on en profite pour saluer le docteur Arruda qui nous donne une fois de plus l'occasion de mettre une petite toune qui a du rythme. Je sais pas s'il y en a beaucoup de Québécois qui avaient l'intention d'aller au Brésil, à Copacabana. Mais toujours est-il qu'on parlera de voyage d'ailleurs en deuxième heure d'émission. Ça a l'air que la petite neige vous donne des envies de vous échapper là où il fait plus chaud qu'ici et plus beau. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais sur cette question du fameux party, est-ce que vous allez devoir revoir toutes vos invitations et surtout, est-ce que ça vous paraît trop restrictif pour nous joindre et discuter de ça ensemble, 514-790-9850 de l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Non, mais ça nous a quand même mis de bonne humeur, le Copacabana. Avec nous, Marc Hamilton, il est microbiologiste, président de Eurofin Environex. Bonjour, Monsieur Hamilton.
Oui, bon matin, Mme Marie-Jeanne.
Bon, vous, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie, ça, qu'on passe au lieu de quatre jours où on pourra célébrer avec nos proches, nos familles, bien là, finalement, c'est plutôt deux parties au lieu de quatre, même si bien des Québécois avaient compris que c'était pas que quatre, que ça pouvait à la rigueur être 12 à 3 par jour. Donc là, on restreint, on serre la vis. Pensez-vous que la santé publique et le gouvernement du Québec, François Legault, ont été surpris de la réaction des Québécois quand ils nous ont annoncé ça jeudi dernier?
Bien, je pense que c'était tout qu'un privilège hein, qu'il nous a donné la semaine dernière, quand il nous a dit de nous donner quatre jours. C'est tout qu'un privilège de vouloir ouvrir quatre journées consécutives, 10 personnes de tout acabit, pour dire que ce soit la même famille.
Ouais.
C'était un grand privilège. Sauf que il a fait ses calculs. Il a dit « Wow, attends un petit peu, là, je vois l'engouement, je vois que les gens se préparent d'avance, les parties, puis là, tu sais, les petites chansons, puis tu sais, les gens vont vouloir fêter Noël et le jour de l'an en même temps. » On s'entend, là, que c'est oui, on rencontre nos parents et tout ça, mais Il y a une certaine tranche de personnes qui vont vouloir faire des parties, assurément. Mais il a fait ses calculs, il a dû se dire, là, si je fais des études épidémiologiques, puis je dis, bon, 10 personnes par jour, 4 jours consécutifs, c'est-à-dire qu'une personne peut voir 40 personnes, si on multiplie ça exponentiel, blablabla, ouh, Colin, il dit, s'il faut qu'il y ait un outbreak, une éclosion qui s'installe là-dedans, ce sera pas drôle pas longtemps après. Fait qu'il a tout simplement revenu sa décision, puis il a dit, oups, je pense qu'il faut que je fasse mes calculs parce que si c'est pour partir, ça va partir tout croche. Fait que c'est ça qui est en train de nous programmer d'avance.
Mais êtes-vous d'accord pour dire que c'était à prévoir, ça? Que le monde allait calculer que finalement, il y avait le droit d'en faire plus que ce qu'on aurait pu supposer, là. Quand ils l'ont annoncé tout de suite, je veux dire, moi, j'ai calculé une personne seule la semaine dernière, là, qui en rencontrait 9 autres 3 fois par jour. Au bout de 4 jours, ça faisait 108 contacts. Je veux dire, je peux pas croire que le directeur de la santé publique ait pas fait ce petit calcul assez simple à faire sur le champ dans le meeting, là.
Ben, c'est pour ça qu'il est revenu hier, là, quand il a parlé. Il a dit, écoutez, une personne qui travaille, qui n'est pas capable d'être en quarantaine, de se faire sa fameuse quarantaine volontaire, 6 jours avant Noël, on se dit qu'on ne vous recommande pas d'aller au souper. Donc, autrement dit, il dit bien, là. T'sais, autrement dit, si vous n'êtes pas en mesure de faire du télétravail ou que vous travaillez dans le public, donc il y a quand même beaucoup, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, les gens qui ne peuvent pas prendre une semaine de break avant. Bien, comme dit, on vous recommande pas d'aller festoyer le 24 au soir parce que vous êtes potentiellement une personne à risque à transmettre la maladie. On ne sait jamais si vous êtes asymptomatique. Donc, ça vient, ce qu'il a dit hier, ça a coupé les jambes à ben des gens, là, parce
ouais.
que si on suit ça à la lettre, ça vient de couper beaucoup de parties, parce que je pense pas qu'il y ait des infirmiers, des infirmières, puis des gens qui travaillent dans les magasins, puis ces choses-là, qui vont prendre nécessairement une semaine avant Noël pour prendre un break, là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ben, si tout le monde suit ça à la lettre, que les gens se font un isolement volontaire une semaine avant, ben, on vient de couper encore des probabilités de transmission. Fait que lui, ce qu'il nous dit, c'est dans le meilleur des mondes, si tout le monde fait ça, on ne devrait pas avoir de problème. Mais le problème, c'est que ça arrivera pas, ça, là.
Mais non, mais moi, j'ai hâte de voir, les auditeurs vont nous le dire, là, mais j'ai hâte de voir si les gens vont se priver de Noël parce qu'ils travaillent le 23 ou le 24, là. M'étonnerait. Est-ce que ça vous paraît trop restrictif, ça, Mark Hamilton? Vous êtes microbiologiste, là, considérant les risques de contamination. Puis là, on va parler ensuite là, des 1000 cas. Puis ça, c'est l'autre condition. C'est que tant qu'on n'aura pas aussi baissé notre courbe, même si la courbe, ça ressemble plus à un plateau là, depuis les dernières semaines au Québec, mais ça baisse pas. Là. On est toujours, encore hier, là, c'était plus de 1100 cas. On est toujours au-dessus du 1100 et 1200 de façon quotidienne. On s'était parlé, nous, il y a quelques semaines, vous m'aviez dit les cas de COVID vont aller en augmentant. Il y a eu l'action de grâce à la mi-octobre, il y a eu l'Halloween le 31. Il y a toujours des éclosions. On en parlait hier. Il y a 3 CHSLD, entre autres, qui sont extrêmement préoccupants. Là, il suggère que tant qu'on n'aura pas baissé en bas de 1000, il n'y a pas grand-chose qui va changer. C'est beaucoup de restrictions, ça.
Bien, effectivement. Tu sais, on l'a vu, là, quand on est monté à 1300-1400 cas en début novembre, 7 jours après l'Halloween. Imaginez, on a eu quand même une légère éclosion pour une journée qui était l'Halloween, qui était essentiellement des rassemblements extérieurs. Puis on a dit, whoop, hey, on a quasiment frappé le 1500 pendant 3 jours consécutifs. Imaginez, là. Fait que il se dit, notre écosystème est contrôlé, mais elle est très fragile. À la moindre exception, boum, ça peut repartir par en haut. Donc, il nous programme, hein, 1 mois à l'avance, de dire, faites attention, puis je peux revirer de bord à la dernière minute, que si on n'est pas capable de conserver le 1000 ou de descendre en bas de 1000, je peux décider de dire, ben, il n'y en aura pas tout simplement de Noël parce que c'est trop actif. C'est sûr que, on va le voir, la Thanksgiving aux États-Unis, là, c'est demain. Donc, on sait que la Thanksgiving, ça va être un excellent exemple pour voir le comportement des gens dans un milieu où est-ce qu'on festoie beaucoup. Donc, c'est là-bas, c'est la fête la plus fêtée des États-Unis. Tout le monde fête la Thanksgiving. Et on va voir s'il y a, il y a une éclosion qui va apparaître, ou une troisième éclosion suite à 6 jours après la Thanksgiving. Puis probablement que le gouvernement va s'en servir comme exemple. si les États-Unis n'ont pas d'éclosion suite à une éclosion faramineuse suite à 16 jours après le Thanksgiving, il va dire bon, OK, les gens sont capables d'écouter puis de suivre les directives sanitaires. Sauf que si un break arrive et qu'il dit whoop, hey, là, on a 100 000 cas positifs par jour et ça, boum, ça monte. Il va s'en servir comme exemple, c'est sûr, pour nous conscientiser. Mais le risque est là. Là, on a 4 jours en ligne où est-ce qu'on, on enlève des barrières. On est en période des fêtes où est-ce qu'on prend de l'alcool. Le 2 mètres, il va être dur à respecter. On va être dans des milieux clos. On va parler fort. Il y a de la musique. On va essentiellement peut-être se donner des petits becs. On sait qu'avec l'alcool, on oublie certaines choses. Donc, c'est évident que toutes les conditions sont là pour que s'il peut avoir une éclosion, elle va arriver. C'est pour ça qu'il met beaucoup d'accent sur la prévention avant, les 7 jours avant, pour qu'on ait le moins de 1000 cas possibles durant ces fameux 7 jours-là. Là.
Mais si vous basez sur l'exemple américain, moi, je peux déjà, sans avoir de boule de cristal, on peut déjà supposer, Mark Hamilton, qu'à la suite là, de l'action de grâce demain aux États-Unis, alors qu'on sait que déjà les aéroports sont remplis depuis les derniers jours comme jamais, que les files d'attente, même pour se faire tester, c'est interminable, les gens respectent même pas les distanciations non plus, peu importe où ils vont. Il y a des États qui font comme si ça existait à peu près pas. Je pense entre autres à la Floride où de nombreux Québécois vont aller se réfugier pour passer l'hiver. Ça n'a rien pour nous encourager, là, ça, je trouve, Mark Hamilton.
Évidemment, là, il y a un risque qui s'en vient. Comme je vous dis, le virus, hein, il n'a pas changé. Il aime les êtres humains. Donc, c'est évident que plus il y a d'êtres humains, là, en plus, sous le même toit qui se colle, si quelqu'un qui est asymptomatique, ben ça va se transmettre facilement. Puis on le sait que, on l'a vu, là, les études le prouvent, que les fameux aérosols existent. Les fameux aérosols peuvent faire la différence dans une éclosion. On sait que si vous êtes 10 personnes dans une maison plus ou moins bien ventilée, une petite maison, et qu'il y a des rapprochements, ben les aérosols, une personne qui est asymptomatique peut faire toute la différence. Et même si on garde nos distances, j'ai porté mon masque, mais il reste que peu importe, c'est tous des facteurs de risque qui vont augmenter les probabilités d'éclosion parce qu'il y a 8,5 millions d'habitants au Québec qui vont, pendant ces 4 jours-là, se rencontrer. C'est du jamais vu.
Dans un contexte de COVID, là, oui.
Dans un contexte de COVID, il y a 8,5 millions qui, pendant 4 jours, tu sais, l'été, on a eu un break l'été passé, mais c'est sur tout l'été. Mais là, pendant 4 jours, on concentre 8,5 millions qui, à quelque part, va se voir de près ou de loin. Et faut s'attendre à ce qui risque d'avoir certaines conséquences par la suite. Là, c'est quasi inévitable.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudra porter notre masque? Je veux dire, la visite, on lui demande de porter un masque. Ça va être délicat.
C'est facile à dire, mais écoutez, on est 10 personnes. On prend de l'alcool, il y a des bouchées, on a toujours un verre dans la main. Est-ce qu'on va lever le masque, prendre une gorgée, remettre le masque? Écoutez, c'est tant mieux si les gens sont capables de vivre avec ça, mais il ne faut pas penser que les gens vont suivre ça à la lettre. C'est la recommandation, mais en réalité, entre vous et moi, qui va faire ça?
Exactement. Bon, on va poser la question aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces fameux 4 jours? Là, vous avez compris. Donc, Volte-Face de Québec, visiblement, ce ne sera pas 4 jours de party. Ce ne sera même pas à la rigueur. Ce que je comprends, moi, c'est un rassemblement privé. Si vous demandez au docteur Arruda, pas de Copacabana, un rassemblement privé, c'est ça, sa préférence. Bon, ça peut aller jusqu'à 2. Mais pas plus que ça. Alors, c'est sûr qu'il va falloir faire des choix. Peut-être avez-vous déjà prévu, vous aviez déjà fait votre liste là, de parties. Est-ce que vous allez devoir appeler votre visite, vos proches pour annuler? Comment vous voyez ça? Il y a déjà pas mal de monde qui me disent que le problème qu'ils voient, c'est l'école. Parce qu'il y a Yannick qui me dit, chaque famille qui a des enfants à l'école, là, il dit pour lui, ça se termine le 22 décembre. Ça veut dire qu'on pourra rien planifier. Ça va faire beaucoup de monde là, qui vont devoir annuler leur party. Il dit, rendu là, on annule tout pour tout le monde. Et ça, c'est une idée qui fait du chemin. Pas si ça vous tenterait là, de ne pas avoir de party du tout ou juste dans votre bulle. Juste la bulle famille, petite famille. 514-790-9850. En même temps, je vous dis ça, puis il y a beaucoup de monde qui sont seuls. Une personne sur deux, apparemment, dans la région de Montréal, vit seule. Ça va être longtemps, là. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Je vais vous entendre là-dessus. Copacabana,
fell in love.
Alors, je vous pose la question, est-ce que ça change quelque chose pour vous là que au lieu des quatre jours où vous aviez l'intention sans doute de faire des rencontres familiales et amicales, mais là, c'est deux parties seulement, idéalement même seulement un. Il y a Marie-Michel qui m'écrit, elle est survivante COVID, elle a été très malade. Et elle dit, pour elle, c'est très clair qu'on devrait plutôt dire aucun rassemblement. Elle rappelle d'ailleurs que Santé Canada a demandé aux Canadiens de ne faire aucun rassemblement. Et c'est vrai qu'on l'a entendu de la part du Dr Tam, Santé publique Canada. On l'a entendu du premier ministre Trudeau également. Et elle s'étonne de voir que chez nous, le trio de la santé, comme elle les appelle, Dr Arruda, le ministre de la Santé, Christian Dubé et François Legault, font fi de cette recommandation. Elle, ça la fâche beaucoup, Marie-Michel. On a Luc qui est avec nous. Bonjour, Luc.
Bonjour, madame.
Comment vous voyez ça? Est-ce que ça modifie votre planification de Noël, vous?
C'est bien simple. Il n'y en aura pas de Noël cette année. Puis tout le monde devra faire ça. Cette année, on devrait tout oublier ça, Noël. C'est pas la fin du monde, là. Il va y en avoir d'autres Noël dans les prochaines années, là. La Terre n'arrêtera pas de tourner parce qu'on ne fête pas Noël cette année, là. Nous autres, notre famille, on a décidé qu'on ne faisait rien. On a des parents de 88-90 ans. Pensez-vous qu'on est intéressés à donner ça, cette cochonnerie de virus-là, à nos parents?
Merci beaucoup. Mike, bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal. Bon matin.
Comment vous voyez les choses, vous, après cette restriction supplémentaire, là? Est-ce que vous la comprenez d'abord et est-ce que vous allez la suivre ensuite?
Bonne question. Écoutez, je vois que je vais y aller en général, OK? Dans une affirmation plutôt. Quand on regarde la situation pour les employés et les employeurs au Québec, ouais. Il y a plusieurs employeurs qui proposent à leurs employés de choisir une période de vacances, soit de choisir dans le nouvel an ou soit choisir durant Noël. Et là, il y a des employeurs qui font même leur horaire un mois à l'avance, comme dans mon cas à moi. On m'a demandé, veux-tu travailler pour le Noël ou nouvel an? J'avais choisi de travailler durant Noël. Alors là, je me retrouvais en vacances pendant le nouvel an. Et là, malheureusement, OK, je suis en vacances pendant le nouvel an, mais je ne pourrais rien faire.
Mm-hmm.
Si, je suis les règles, bien sûr.
Et vous allez travailler à Noël?
Je vais travailler durant Noël, mais je serai en vacances pour le nouvel an.
Ouais. Et donc, ça veut dire que vous allez respecter la règle de pas de célébration?
Franchement, je vais vous dire, en étant honnête, là, je vais voir au moment venu, parce que je pense que le gouvernement met des plans pour éviter... qu'il y a un engrenage de problèmes qui suivent, mais ils savent très bien que, rendu le 31, à quel point 100% de la population va suivre les règles, vous voyez?
Ouais, tout à
donc,
fait.
Je comprends les gens aussi. Je comprends également les gens qui disent qu'on devrait absolument tout balayer, parce que pour de vrai, sincèrement, quand on regarde la situation, je trouve que l'idéal aurait été simplement de dire, écoutez, guys, juste une année, on va passer.
Voilà,
sur ça,
effectivement, puis... oui, tout à fait. Puis je pense que de plus en plus de gens le disent. En même temps, pour une personne seule, merci, Mike, pour une personne seule, c'est pas évident. Puis c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait 9 mois qu'on est dans cette pandémie. Quelqu'un qui vit seul trouve le temps long. Et passer les fêtes de Noël, la célébration du jour de l'an, ou en général, c'est une fête avec des amis... C'est vraiment pas évident. En même temps, je pense qu'il faut tirer un trait sur 2020 de ce point de vue-là. Ce sera pas l'année la plus sociable qu'on aura eue de notre vie, ça c'est clair, puis on va souhaiter que ça ne puisse aller qu'en s'améliorant et que 21 nous amène des meilleurs jours. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut se dire, puis c'est ça qu'il faut avoir comme objectif aussi. Donc, une petite restriction dans le temps des fêtes, bien, c'est comme le dernier petit coup qu'il faut donner. Stéphane, est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là?
Moi, j'ai cancellé.
Carrément.
Le 25, oui, parce que mon garçon, il a un party le 24 avec sa conjointe, qui sont en vingtaine. Puis eux autres, tu sais, je sais qu'ils vont être plus que 10. Fait que moi, le 25, j'ai décidé de canceller ça. Puis je pars dans le sud.
Ah, c'est vrai?
Ah oui, je pars 2 semaines. Je pars du 4 au 18. J'ai décidé ça. Je me suis dit, tant qu'à partir d'être ici, puis je vais être. On va m'isoler 2 semaines en revenant, puis je vais écouter le bye-bye le 31, puis le premier, ça va être fini.
OK, donc vous partez du 4 décembre au 18
oui,
décembre,
décembre,
c'est ça?
Au 18, oui, je vais avoir la République dominicaine. Là-bas, c'est sûr qu'il y a le payer le confinement. Le soir, c'est le couvre-feu de 9h le soir jusqu'à 6h le matin. Mais j'ai un ami comme le gars qui reste là-bas. Puis comme il m'a dit, il dit là-bas, même le monde des rues porte le masque. Fait que je me suis dit, tant qu'à partir, tant qu'à être ici, Puis je le sais qu'ils vont avoir plein de monde, ouais, comme vous dites tantôt, plus que 10 à 20 ans. Ils porteront pas tous leurs masques et tout. Là,
fait que vous vous dites, aussi bien, c'est quasiment plus sécuritaire en République, c'est ça que vous vous dites?
Ben c'est ça que je me suis dit. Fait que j'ai booké, puis je m'en vais.
Bon, ben bon voyage. Merci.
Bon, merci.
Merci. On a Ralph qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Le collègue qui vient de passer, je pense que si tout le monde pouvait faire la même chose, on l'aurait fait. Idéalement, moi, nous, ce qu'on pensait, c'est qu'avec une grosse famille, parce qu'il y en a qui ont vraiment des familles quand même assez élargies, la stratégie à laquelle on a pensé, c'est que ceux de Montréal, donc, ils vont rester en dessous de Montréal. Mm-hmm. Ceux de la Rive-Sud, ils vont faire avec ceux de la Rive-Sud. Parce que sinon, c'est impossible de vraiment respecter les mesures qui ont été mises avec la quantité de nombre de personnes qu'on est. À partir de là, c'est sûr que les distances puis les masques, ça, je crois pas vraiment que c'est possible parce que, honnêtement, c'est déjà assez difficile à tous les jours, même en rentrant dans un magasin. Donc, dans les temps de fête, je pense que ça va pas être possible. Mais en réduisant le nombre de personnes puis rester dans les mêmes zones, je pense que c'est déjà... C'est déjà une bonne stratégie. Là.
OK. Donc, vous allez respecter donc la couleur des ondes, mais en même temps, bon, si vous êtes sur la rive sud, et il y a des zones rouges aussi. Donc, mais vous dites, on se mélange pas trop. On va rester dans...
Oui, idéalement, on se mélange pas trop parce que souvent, on a des oncles à Montréal, des tantes sur la rive sud, d'autres cousins à Laval, mais si tout le monde arrive puis se rejoint dans les mêmes endroits, c'est sûr que ça aide pas. Alors idéalement, c'est d'essayer de minimiser en restant chacun. Ben pas tout le monde, mais ceux de la rive sud, exemple, on le fait entre la rive sud puis ceux de Montréal. Entre Montréal, puis on mélange avec un peu de vidéoconférence.
Et ça, c'était prévu comme ça déjà avant l'annonce d'hier là, de ces restrictions supplémentaires? Vous aviez prévu
non.
ça? Comme, ou c'est depuis hier là, que vous avez adapté un peu votre planification des fêtes?
Oui, c'est adapté parce que ces temps-ci, honnêtement, c'est très difficile pour les gens. Il y en a beaucoup qui sont tout seuls. C'est sûr que la stratégie que je parle, c'est pour ceux qui ont des grosses familles, mais une personne seule, c'est pas mal difficile. En général, avec la santé mentale, comment que le monde, la COVID a affecté plusieurs personnes, je pense que c'est un moment où que le monde avait de l'espoir, les temps des fêtes, parce que finalement, ceux qui sont tout seuls peuvent voir un peu d'amis ou peuvent sortir. Avec les restrictions, les restaurants, toutes les affaires fermées, c'est sûr que ça devient quand même assez difficile, étant donné que c'est le seul petit moment de relâchement que les gens espéraient. Donc, nous, c'est une stratégie de dernière minute, étant donné que nous-mêmes, on aurait voulu tout le monde se voir, puis c'était pas quelque chose dans lequel on pensait vraiment restreindre, mais à voir les chiffres, comment que ça augmente. Donc, je pense que chacun peut faire sa part selon sa réalité.
Mm-hmm. Bien, merci beaucoup. Merci, Raph. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Au retour, on va avoir un médecin là, qui va nous expliquer un peu. Il est spécialiste, il est gériatre spécialisé en épidémiologie à l'Université de Montréal, au CHUM, en fait. Donc, il va nous dire, le docteur Nguyen, comment il voit les choses et pourquoi ça semblait sans doute la chose à faire là, d'imposer cette nouvelle restriction par rapport aux invitations que vous allez faire dans le temps des fêtes. On se redonne au numéro 514-790-9850 et le 1-866-790-9850 pour nous joindre un peu partout au Québec. Je vous demande si le fait que Québec serre la vis, deux parties au lieu de quatre, idéalement même juste un, et aussi cette espèce de quarantaine 7 jours avant Noël, 7 jours après Noël, est-ce que c'est restrictif, un peu trop pour vous? Vous me le dites tout de suite après.
La situation est très fragile encore actuellement et je vous le dis, il nous faut maintenant aussi abaisser le tout si on veut être capable de se permettre ces deux rassemblements de Noël.
Docteur Arruda, donc, qui commente le fait qu'il y a un impact direct et une corrélation entre les nouveaux cas de COVID. Et il y en a de façon quotidienne toujours au-dessus de la barre des 1000. Ce qu'il nous dit, c'est que tant qu'on n'ira pas sous cette barre des 1000 nouveaux cas par jour, il n'y aura pas de feu vert pour plus de rassemblements privés. En gros, comme le titre d'un quotidien le dit aujourd'hui, pas de diminution, pas de réveillon. C'est un peu seul concept. On va en discuter avec le docteur Kwok Din Nguyen, qui est gériatre spécialisé en épidémiologie au CHUM. Bonjour, docteur Nguyen.
Oui, bonjour, Mme Maréchal.
Comment vous réagissez par rapport à cette nouvelle annonce? Donc, on rétablit les choses un peu. On a sans doute été à Québec, un peu surpris par l'engouement des Québécois à se booker plusieurs parties, finalement, pendant ces quatre petites journées là, qui nous ont concédé un peu comme un cadeau. Est-ce que c'était évident qu'il fallait rétablir les choses pour que on évite des nouveaux cas de contamination, Dr Nguyen?
Ben, écoutez, je pense que d'une part, c'est sûr que la pandémie, tu sais, on vit ça une fois par siècle, on l'espère, puis les gens, avec les mesures de confinement puis l'évitement des contacts, bien, c'est sûr qu'on s'est beaucoup moins vus. La pandémie est arrivée après Noël, on avait fait, au mois de mars, disons, au Québec, février-mars, on avait fait nos réserves de contacts humains. Là, c'est sûr qu'on en a bien envie, puis il n'y a pas un meilleur moment pour le faire qu'à Noël. C'est sûr que c'est un virus, une maladie infectieuse, hein, et donc il y a une relation mathématique très simple qui fonctionne à peu près toujours, que plus on a de contacts, si on garde le reste des choses de façon égale, plus on a de contacts, plus il va y avoir des cas, puis plus il y a de cas, bien, plus il va y avoir de décès, particulièrement si ces cas-là se retrouvent chez la population un peu plus âgée. Donc, il est inévitable, et je suis pas en train de dire que le gouvernement, je comprends pas pourquoi ils aient fait ça, là. Je comprends très bien que la population a envie de se voir, et Noël est un moment important. Mais il est inévitable que si on augmente nos contacts, il va y avoir plus de cas et plus de contamination et des décès et des hospitalisations. Et donc, oui, je pense que le message de la santé publique et du gouvernement, c'est on le permet, mais on veut certainement, mais certainement pas l'encourager. Et si on le fait, il faut le faire de façon la plus sécuritaire possible.
Oui, mais peut-être qu'on aurait dû dire ça la semaine dernière, là, au lieu de laisser espérer aux gens plus de rencontres finalement que ce qu'on va pouvoir faire.
Écoutez, sans dire qu'il aurait fallu l'imposer ou pas, moi, je pense que si les gens prennent leur propre décision, et c'est peut-être le message que j'essaie de transmettre, que c'est une chose de se faire dire qu'on va pas le faire, puis c'est une autre de décider qu'on va faire ça de façon la plus modeste possible et y donner un sens. C'est-à-dire, ben, je comprends la difficulté. Tu sais, le virus, personne ne l'a choisi. Personne ne voulait ça, mais une fois qu'il est là, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que on prend le plus de contrôle et on donne un sens à ce Noël modeste qui est le Noël 2020 d'une année relativement spéciale et modeste, ou est-ce que c'est le gouvernement qui nous l'impose? Donc, je sans nécessairement dire que ça devrait venir de l'extérieur ou de l'intérieur, je pense que le plus important, c'est de prendre le temps de prendre un pas en arrière et de se poser la question de mais quel est le risque, puis quel est le risque qu'on est prêt à prendre?
Voilà, c'est toute une question de gestion de risque. En même temps, là, on nous parle du fameux 1000 cas par jour, qui est comme l'espèce d'objectif là qu'il faut atteindre, c'est-à-dire qu'il faut même aller sous la barre de ces 1000 cas. Ça semble être extrêmement difficile. Ça fait plusieurs semaines qu'on est coincé entre le 1100, 1200 nouvelles infections par jour. Il y a encore des éclosions dans trois CHSLD là, qui sont assez inquiétantes pour qu'on en parle tous les jours. Comment vous voyez cet objectif à atteindre, Dr Nguyen? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à retourner sous la barre de ce 1000 cas?
Le premier point, peut-être, c'est de dire que le 1000 cas reste un chiffre très arbitraire. Hein.
Ouais,
on choisit 1000 parce que on aime les chiffres ronds qui finissent avec des zéros, avec une base de 10, mais en réalité, le 1000 cas dans des populations asiatiques, si on proportionnalise pour la population, ça serait pas acceptable. Là, au Japon, en Corée, ils toléreraient pas ce 1000-là du tout. Mais là, on se tourne vers nos voisins du Sud, puis le 1000, on trouve ça avantageux, puis on est rassuré. Donc, je veux quand même dire que ça reste quand même un chiffre arbitraire. Maintenant, pourquoi le 1000 semble, on reste stable autour de ça? Ben, encore une fois, je reviens à l'idée que on n'a pas mis nettement plus de mesures, on n'en a pas non plus assoupli, les écoles restent ouvertes, et c'est, je pense, correct et important. Les gens ont, grosso modo, je suppose, le même nombre de contacts qu'ils avaient dans les dernières semaines, et donc on atteint comme un genre d'état d'équilibre où le virus se transmet d'une certaine façon. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on voit une tendance un peu plus haussière pour les personnes plus âgées, puis c'est elles qui vont finir par être hospitalisées puis par décéder. Donc, même si le même nombre de cas reste à 1000-1200, je m'inquiète du fait que la distribution, c'est-à-dire les proportions d'âge, changent un peu. Puis là, et c'est sûr que je vous dis tout ça, puis on pense à Noël qui s'en vient. Et là, on le sait que nos contacts vont augmenter. Et ils vont augmenter à l'intérieur de façon significative. Et donc, c'est virtuellement impossible qu'on reste à 1000 cas, 1200 cas. Et donc, il faut, encore une fois, je ne sais pas...
Vous voulez dire ça va augmenter pour vous, Dr Nguyen, pour vous?
Mais je veux dire, c'est inévitable. Ouais. Là, la question, c'est est-ce que cette hausse-là va être absorbable par le réseau de la santé? Mais c'est inévitable.
Mais là, donc, est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux que de nous faire miroiter encore l'idée, l'objectif du 1000 cas par jour avant de donner le feu vert à d'autres rassemblements, alors que dans le fond, on sait très bien que ça va augmenter parce que le monde va se rassembler.
Mais juste pour être clair, le 1000 cas avant Noël, ça, je peux pas vous dire. Là, ça dépend beaucoup de la société, puis ça dépend à quel point on contrôle les éclosions dans les milieux dits pour aînés.
Ouais, mm-hmm.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après le 24 décembre, il est inévitable que le chiffre qu'on va avoir, lui, il va monter. Est-ce qu'on est capable de baisser le plus possible avant cette montée qui risque d'être quand même significative? Je suis pas en mesure de vous le dire, mais...
Ouais.
Mais l'idée des fêtes, l'idée de permettre de se rencontrer puis de réveillonner, ben c'est d'avoir des contacts. Et je veux dire, on va faire tout ce qu'il faut et je souhaite que les gens le fassent, là, le port du masque, les 2 mètres et compagnie. Mais il va quand même avoir une petite proportion de transmission majorée.
Ouais. Il y a beaucoup de questions là, de la part des auditeurs là, qui m'écrivent concernant l'attitude à avoir avec ses proches aînés. On a d'ailleurs Christian là, qui veut intervenir là-dessus. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour. J'ai été testé positif le 19 octobre. Oui. Puis ma femme, 5 jours plus tard. Puis dans le fond, là, il nous reste seulement... On est considéré guéri, mais on a des séquelles. On a des séquelles comme moi, j'ai une toux fatigante. Puis ma femme, elle n'a pas récupéré son odorat au complet.
Mm-hmm.
Puis moi, ma question, dans le fond, c'est... Est-ce que je serais un danger pour mon père qui a 70 ans si je le vois le 24 décembre, si j'ai encore ces séquelles-là, mais que je suis guéri, dans le fond? Est-ce que c'est vrai qu'on est immunisé une fois guéri? Parce qu'on s'est parlé, moi et mon père, ce matin, puis on s'est tous posé des questions par rapport aux nouvelles règles d'hier.
Mm-hmm. Mais c'est une très bonne question, Christian. Beaucoup de gens se posent la question au Québec, et en particulier là, dans votre cas, Christian, vous l'avez eu, la COVID. Docteur Nguyen, cette question très précise, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer Christian?
Il y a beaucoup d'éléments. Le premier, c'est que bon, l'immunité, on sait qu'on en a une, puis que les cas de réinfection sont assez rares, disons, dans les 3 à 6 mois qui suivent. Plus que ça, il reste à suivre les données. Le deuxième élément, c'est on peut guérir, on peut guérir de l'infection, c'est-à-dire on peut avoir éliminé le virus et quand même rester avec des séquelles parce que le virus peut laisser des complications. Est-ce que parce qu'on a encore de ces complications-là, là, on parle de moins sentir l'anosmie, puis on parle de la toux, ça ne veut pas dire qu'on est encore contagieux. Néanmoins, je ne veux certainement pas que les gens retiennent que j'ai fait la COVID, je suis donc immunisé, je n'ai donc pas besoin de prendre mes précautions. Et le même point va s'appliquer une fois qu'on va être vacciné. On sait que le vaccin protège contre les formes sévères, protège contre contracter probablement la maladie, mais les vaccins, on n'a pas le signe que ça réduit nettement la transmission. Donc, juste pour revenir à Christian, c'est vraiment, il est probablement pas contagieux, mais je réitère que c'est tellement important d'une perspective populationnelle à l'approche des fêtes que les gens respectent les mesures, qu'ils aient eu la maladie, peu importe ça fait combien de temps.
Donc, pour l'attitude à avoir dans sa famille et que son père, ça veut dire pas de visite prévue, là.
Écoutez, sans aller jusque-là, je pense que la meilleure chose à faire d'un point de vue populationnel, c'est de bien informer les gens des risques de contracter la maladie.
Ils prendront leur décision.
C'est sûr que, mes patients me posent cette question-là, et là, je fais du cas par cas. Mais c'est difficile de faire du cas par cas à la radio.
Tout à fait. Mais en règle générale, vous diriez, Dr Nguyen, que quelqu'un qui a attrapé la COVID, qui a toujours, en plus des séquelles, ou non, mais bon, c'est pas parce qu'on l'a attrapé qu'on est immunisé. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, on peut toujours être à risque.
Mais c'est qu'on est immunisé, mais la durée de l'immunité et comme message de santé publique, c'est probablement pas le bon message de dire je l'ai fait, je balance toutes les bonnes mesures à côté. Sur le côté.
Oui, exactement. Donc, si on retient, en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, idéalement, c'est de limiter les contacts au strict minimum. Et vous êtes assez d'accord avec le docteur Arruda qui dit un seul, s'il faut choisir, là, vous prenez votre bulle immédiate, puis c'est un seul rassemblement privé avec peut-être une bulle élargie.
Le moins possible, mais donner un sens à Noël, puis si on se rend compte de le faire en ventilant, en gardant un masque, en gardant les 2 mètres. Et c'est de se dire, la lumière au bout du tunnel s'en vient, on a un vaccin. Donc, donner un sens à ce Noël très particulier.
C'est intéressant, donner un sens à Noël, je retiens ça, entre autres. Quel sens on pourrait, ça appartient à chacun, mais quel sens vous lui donnez, vous, cette année, à ce Noël-ci, Dr Nguyen?
Je pense que c'est un Noël peut-être de cocooning et, mm-hmm. et de se ramener à l'essentiel, puis peut-être pas à l'exubérance. Mais c'est probablement à l'image de l'année qu'on a vécue. Puis quand tout sera ça derrière nous, je pense que le Noël sera d'autant plus doux et heureux. Là.
Ouais, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Le docteur Kwok Din Nguyen est gériatre. Il est spécialisé en épidémiologie. Il travaille au CHUM à Montréal. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Je vous donne encore la parole. On a quelques minutes pour conclure sur ce sujet. Marc Hamilton, microbiologiste, est toujours avec nous. À tout de suite, tout le monde. Il y a Joanne qui m'écrit une distance de 2 mètres autour de la table. Ça va pas être évident à 10 pour manger, boire, parler en mangeant. Faut enlever nos masques. Et elle a une situation qui va peut-être vous rappeler la vôtre parce qu'il y a beaucoup de Québécois dans cette situation-là. Famille recomposée, garde partagée. Chez Joanne, elle dit, on va recevoir la veille de Noël ma fille, son conjoint, nos 2 petits-fils, le fils du conjoint de ma fille. Ce qui l'inquiète, c'est que ses petits-fils vont aussi aller chez leur père. Elle dit sa fille est séparée du père de ses enfants. Le lendemain, donc le 25, les petits-fils vont aller chez leur père. Le père, il y a une nouvelle conjointe qui a 3 enfants qui vont à leur tour aller chez leur père la veille. Le père a une conjointe qui a 2 filles. La fille demeure à Laval. Le fils de son nouveau conjoint demeure à Montréal avec sa mère. Eux, ils habitent à Terrebonne. Le père des enfants à Mascouche. Le père des enfants de la nouvelle conjointe à Terrebonne. Toutes dans des écoles différentes. Me suivez-vous? Ça devient compliqué, là. Mais n'empêche que c'est pour montrer à quel point, là, si vous mettez ça sur papier, imaginez les contacts. Même à un party, là, c'est ça que ça veut dire. Même à un party, si tout le monde fait un party, mais vient de bulles différentes, ça reste quand même important. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est quoi la différence de faire un party chaque jour pendant 4 jours ou un gros party seulement une fois? T'sais, lequel est le moins pire? On va poser la question à notre invité, Marc Hamilton, microbiologiste. Marc, il y a toutes sortes de situations, de cas de figure. C'est sûr que là, si on rentre dans le cas par cas, il y en a qui vont gagner le concours de la plus grosse famille et puis la plus grande famille recomposée avec plein d'enfants qui viennent d'un peu partout. Mais c'est vrai que ça complique les choses.
Hein. C'est incroyable, c'est exponentiel.
Exact.
J'écoutais, là, tu m'as comme un peu étourdi.
Mais c'était ça le but, c'était pour montrer que c'est compliqué. C'est ça.
Mais imaginez ça, c'est un cas de figure. Imaginez, ouais. Il y a plusieurs des cas de figure comme ça, qu'il y a des enfants, des beaux-parents, des gens qui se connaissent plus ou moins. Écoutez, c'est évident que plus il y aura de contacts, plus il y aura des risques et plus ça peut être pire. Donc, c'est évident que de limiter ça à 2, c'est mieux que 4, assurément. Mais il faut que les gens suivent ça à la lettre. Puis, tu sais, on dit 10. Tu sais, si vous pouvez être 6, soyez 6. Si vous pouvez être 4, soyez 4, mais soyez pas plus que 10. Donc, tu sais, il faut agir en diligence là-dedans, puis en raisonnabilité, puis de voir comment est-ce qu'on peut nous raisonner, de dire comment est-ce qu'on peut limiter faire confiance aux gens à qui qu'on va inviter. Est-ce que, tu sais, sans faire d'enquête très épidémiologique, de dire, ben, est-ce que tu as travaillé avant venir au party?
Mais voilà.
C'est de quel milieu? Tu sais, c'est sûr que si on pourrait donner un questionnaire aux gens, on pourrait évaluer le risque, mais... Écoutez, c'est pas toujours évident. Puis c'est vrai que les maisons, tenir ça à 2 mètres autour d'une table, c'est pas évident non plus. Donc, ça va être dur. Il va y avoir une twist à faire pour éviter à l'interne. Puis moi, je recommande, Isabelle, de s'il vous plaît, faites aérer votre maison durant vos parties. Les aérosols vont être présents. Si vous pouvez ouvrir une fenêtre, ajouter un filtre pas ou juste faire virer la hotte de la salle de bain ou la hotte de cuisine pour faire circuler l'air le plus possible dans la maison, ça va être un facteur qui pourrait aider à limiter la propagation en cas qu'il y aurait un cas positif dans les invités.
Mmh. Fait que d'avoir un purificateur d'air, mettons, dans le salon, ça aiderait aussi?
Ben, on parle d'un purificateur d'air qui a un filtre de vraiment de haute efficacité. On parle de filtre EPA. Si c'est juste un filtre comme ça pour enlever les odeurs, non. Ça prend un filtre qui avec une efficacité prouvée pour enlever les bactéries, les virus dans l'air. Oui, ça peut aider, effectivement. Les preuves sont faites déjà. Ouais. Mais il faut vraiment diluer l'air ou filtrer l'air. C'est des petites choses comme ça qui vont contribuer à limiter la propagation.
Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui parlent du fait là, que l'idée de porter un masque quand on va chez un de ses proches, mais c'est vrai, l'enlever, le toucher, c'est vrai que parfois, là, on a tendance à toujours toucher notre masque. C'est peut-être pas une bonne chose à faire non plus. L'idée de porter un masque à l'intérieur, est-ce que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas un gage de sécurité non plus, forcément, tout le temps, là, si on est tout le temps en train de jouer après?
Ben, en plus, c'est sûr. Tu sais, faut penser, on fait un party. On est là 5-6 heures ensemble. On a toujours un verre à la main. On a toujours des bouchées. Donc, le masque, on va l'enlever, on va le descendre, on va l'enlever, on va le descendre. Ça devient quasi inutile, là.
Voilà.
Fait que c'est pas évident à prendre en considération.
On retient minimum de contact. C'est ça, là, la clé. Si on veut éventuellement aller à la barre du 1000, cas d'infection. Merci beaucoup, Marc Hamilton, microbiologiste, président de Eurofin Environex. On va s'arrêter ici. Beaucoup de gens m'ont écrit là, qu'ils allaient partir en voyage. On en parle après les nouvelles. Restez là, tout le monde.